RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, ce quatrième échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens.
Prévu aujourd'hui dans le cadre de la trêve Israël-Hamas, 3 Israéliens seront relâchés contre 183 détenus palestiniens. L'un de ces Israéliens avait été enlevé avec le reste de sa famille, sa femme et ses enfants, eux, sont probablement morts à Gaza. Donald Trump lance les hostilités. Le président américain va imposer des droits de douane à ses voisins, le Canada et le Mexique, ainsi qu'à la Chine. Et les pays européens devraient suivre. En RDC, l'ONU déplore au moins 700 morts depuis dimanche dans les combats à Goma. La Belgique a enfin un gouvernement. Après des heures et des heures de négociations, les partis s'entendent pour une coalition qui sera dirigée par le conservateur Bart De Wever. Et on restera en Belgique. En fin de journal, on redécouvrira le Lotus Bleu, la bande dessinée qui retrace les aventures de Tintin en Chine. Une expo revient sur les origines de cet album.
Un nouvel échange d'otages prévu aujourd'hui au Proche-Orient.
3 otages israéliens et 183 détenus palestiniens dans le cadre de la trêve Israël-Hamas. Ces 3 otages sont des hommes, un franco-israélien, Ofer Calderon, un israélo-américain, Keith Siegel, et l'israélien Yarden Bibas, dont le sort a particulièrement ému dans le pays. Il a été enlevé le 7 octobre 2023 par le Hamas dans le kibboutz Nir Oz, avec sa femme et ses 2 enfants qui, eux, ne reviendront probablement pas. À Tel Aviv, Muriel Paradon et Nicolas Benita.
Sur un stand à Tel Aviv, des bénévoles israéliens vendent des t-shirts et des bracelets au profit des familles d'otages. Ils sont mobilisés depuis plus d'un an et savent tout de leur histoire. Celle des Bibas, enlevée dans leur kibboutz, a particulièrement ému, raconte Naoma, une des bénévoles.
La famille Bibas représente quelque chose d'universel. On parle d'un bébé, d'un enfant en bas âge et de leur mère, dont l'enlèvement a été filmé et diffusé à la télévision. Ça a eu une résonance en Israël, mais aussi dans le reste du monde.
Yarden Bibas, 35 ans, doit être libéré, mais sans sa femme et ses 2 enfants, dont la mort a été annoncée par le Hamas peu après le début de la guerre. Les autorités israéliennes n'ont jamais confirmé, mais pour Yael, une autre bénévole, il faut se rendre à l'évidence.
Les femmes et les enfants étaient censés être libérés en premier, et ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, ils n'ont pas survécu. On a un sentiment mitigé, car Yarden Bibas va sortir, mais sans sa famille. On est inquiet. Il aura besoin de beaucoup de soutien pour recommencer sa vie en ayant perdu 2 enfants et sa femme.
En Israël, les visages des enfants Bibas avec leurs cheveux roux sont affichés un peu partout. Ils sont devenus, malgré eux, le symbole du drame des otages. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Tel Aviv, RFI.
Muriel Paradon et Nicolas Benita que l'on retrouvera en direct de Tel Aviv dans le journal de 7h, temps universel. À Gaza, près de 2 semaines de cessez-le-feu où l'aide humanitaire entre chaque jour par camion, des dizaines de camions, mais les besoins restent immenses, dit l'ONU, notamment concernant le système de santé à terre. Seuls 18 des 36 hôpitaux de l'enclave sont opérationnels aujourd'hui. Des blessés devraient être évacués à partir d'aujourd'hui vers l'Égypte par le poste frontière de Rafah qui va ouvrir après des mois de fermeture. En revanche, l'aide humanitaire ne devrait pas être acheminée par ce passage.
La guerre commerciale est lancée. Le président américain va tenir une nouvelle promesse aujourd'hui.
Donald Trump va imposer des droits de douane au Mexique et au Canada. Les produits importés aux États-Unis seront taxés de 25%. Il devrait signer un décret en ce sens tout à l'heure. La Chine sera aussi concernée avec une taxe de 10%. On retrouve à Washington Guillaume Nodin. Et Guillaume, le président américain lance donc les hostilités avec ses voisins.
Oui, le Canada et le Mexique, dont les produits à destination des États-Unis sont désormais frappés d'une surtaxe de 25%. La raison invoquée par Donald Trump, les migrants et la drogue, notamment le fentanyl, que ces deux pays laissent passer, selon lui, sur le territoire américain. Il n'y a rien que ces deux pays puissent faire pour empêcher ces droits de douane, a-t-il dit vendredi soir à la Maison-Blanche, avant de s'envoler pour le week-end dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Un peu plus tôt, dans la semaine, il avait expliqué qu'il n'y avait aucun produit exporté par ces deux pays, comme par exemple le bois d'œuvre canadien, canadien où les pièces automobiles des deux pays, dont les États-Unis, aient besoin, tout juste consent-il à réfléchir à des droits moins élevés sur le pétrole. Le Canada représente 60% des importations américaines. Donald Trump évoque un montant de 10%. 10%, c'est aussi le montant des droits de douane qu'il envisage d'imposer sur les produits en provenance de Chine. Le pays envoie beaucoup de biens de consommation aux États-Unis.
Et en faisant ça, Donald Trump prend un risque économique, Guillaume.
Oui, parce que ces droits de douane, cette surtaxe, ce sont les importateurs qui sont en grande majorité américains qui vont les payer et il y a toutes les chances qu'ils les répercutent sur leurs prix, selon de nombreux économistes. Et au final, ce sont donc les consommateurs américains qui devraient mettre la main à la poche, alors que Donald Trump s'est fait élire notamment sur la promesse de mettre fin à l'inflation sur les produits de consommation courante. Le président, lui, croit que les droits de douane ne créent pas l'inflation, ils créent le succès.
Guillaume Naudin, correspondant de RFI à Washington. Et Donald Trump a prévenu, la prochaine sur la liste, c'est l'Union européenne pour ses droits de douane. L'UE nous a très mal traités, a-t-il expliqué à des journalistes. Le Venezuela, lui, espère un nouveau départ avec les États-Unis. Caracas a libéré 6 Américains qui étaient emprisonnés. Décision prise après la visite sur place d'un émissaire de Donald Trump.
En République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, à Goma, au moins 700 morts et 2800 blessés depuis dimanche.
Ce sont les chiffres de l'ONU, des centaines de morts donc dans les combats entre l'armée congolaise et le M23, soutenu par l'armée rwandaise. Des combats qui se poursuivent dans le Sud Kivu, dans le territoire de Kalehe. Alors pour des raisons de sécurité, le gouverneur de la province a interdit cette semaine la navigation sur le lac Kivu. Cette mesure, William Basimike, a des conséquences notamment sur le ravitaillement de la population.
Regard rivé vers les barges et bateaux mobilisés au port, Hazina est venue attendre sa fille que la mesure a trouvée en vacances sur une île du lac Kivu.
Mon village, c'est Idui. Ceux qui y vivent dépendent de Bukavu. Comment peuvent-ils trouver à manger? Comment peuvent-ils vivre? Ils viennent se ravitailler ici chaque lundi, vendredi et presque chaque jour, et ils rentrent. J'ai envoyé ma fille avant-hier pour aller visiter sa sœur. Ça a été difficile pour elle de revenir chez nous.
Après avoir suspendu la navigation de toutes les embarcations sur le lac Kivu jusqu'à nouvel ordre, les gouverneurs du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourroussi, l'a adouci en les autorisant à aller jusqu'à l'île d'Idjui. Alain Imani apprécie malgré tout.
Ça nous gêne, bien sûr, mais c'est pour notre sécurité. Nous allons manquer de bananes, de poissons, de pommes de terre, d'ananas. Nous avons des militaires de la marine congolaise. Je suggère qu'ils renforcent la sécurité sur le lac afin de protéger les habitants.
Juste à côté, Claude Amani estime que le Sud Kivu peut se débrouiller autrement en attendant que la situation se rétablisse.
La nourriture peut provenir d'autres territoires que Walungu, Kabare, Uvira, pourvu qu'il y ait la sécurité. Nous allons patienter, mais nous n'allons pas nous y habituer.
La sécurité a été renforcée au bord du lac Kivu et sur les coins chauds de la ville. William Basimike, Bukavu, RFI.
Au Burkina Faso, l'armée accusée de massacres dans la région du Sahel. Des dizaines de personnes ont été tuées dans le nord-est, entre Seitenga et Seba en début de semaine. De nombreuses sources locales accusent un convoi de ravitaillement de l'armée. Parmi les victimes, des femmes, des enfants, des dizaines de personnes sont toujours portées disparues.
RFI 7h08 à Bruxelles. En Belgique, plus de 7 mois après les élections, les partis s'entendent enfin pour former un gouvernement.
236 jours de négociations achevés hier soir au bout de la nuit avec un accord de coalition qui sera emmené par le chef de file des conservateurs, Bart De Wever. On retrouve à Bruxelles Elena Loison. Elena, cet accord a été trouvé in extremis.
La situation ne s'est débloquée qu'à quelques heures de la fin de l'ultimatum posé par le roi. Les partis avaient jusqu'à hier soir pour se mettre d'accord sur un programme de gouvernement. Alors depuis 3 jours, les chefs des 5 partis de la coalition s'étaient enfermés à l'école royale militaire de Bruxelles pour enfin réussir à trouver un compromis. Plus de 50 heures de négociations au finish, une méthode couramment utilisée dans le pays pour épuiser les représentants des partis et les pousser à abandonner leurs dernières revendications. Et pourtant, jusqu'à 21h hier soir, le suspense était à son comble. En cause, une coalition de partis majoritairement de droite et du centre, obligé d'intégrer au moins un parti de gauche et ses revendications pour parvenir à une majorité. Finalement, les cinq partis se sont mis d'accord sur un programme de gouvernement de 700 pages qui doit faire prendre à la Belgique un virage très à droite et mener au pouvoir Bart De Wever, indépendantiste flamand et bourgmestre d'Anvers. Il s'apprête à prendre la tête d'un pays qu'il a passé les 25 dernières années à essayer de démanteler.
Elena Loison, correspondante de RFI à Bruxelles.
En Italie, la politique migratoire du gouvernement Meloni à nouveau désavouée par la justice.
Son projet d'externaliser la demande d'asile en Albanie continue de se heurter à des obstacles judiciaires. Hier, la Cour d'appel de Rome n'a pas validé la rétention de 43 migrants en Albanie. Cette décision accroît la tension entre le gouvernement et la magistrature, Anne Lenir.
Le gouvernement Meloni pensait qu'en attribuant aux cours d'appel la compétence des affaires migratoires, qui dépendait avant des tribunaux civils, cela limiterait le risque d'un nouvel échec de son projet d'externalisation en Albanie des demandes d'asile pour certains migrants. Mais pour les 35 Bangladais et les 8 Égyptiens qui sont restés dans le centre de Djader après le retour en Italie de 6 personnes vulnérables, les magistrats ont suspendu leur jugement. Ils s'en remettent à la Cour de justice de l'Union européenne, qui se prononcera le 25 février sur la liste des 19 pays considérés comme sûrs par l'Italie. Les 43 migrants en question sont donc libres et seront ramenés en Italie dès ce samedi. Elie Schlein, la chef du Parti démocrate, a déclaré « Giorgia Meloni doit se résigner, les centres en Albanie ne fonctionnent pas et ne fonctionneront pas ». De son côté, le député de Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, a fait part de la consternation du gouvernement et de préciser, encore une fois, une partie de la magistrature s'érige contre des mesures adoptées pour garantir la sécurité de notre pays. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et puis c'est l'un des plus célèbres albums de Tintin, Marion, et il fait l'objet d'une exposition en Belgique.
Le Lotus bleu avec sa couverture rouge, rayé d'un dragon chinois à la gueule barbue. Une édition rééditée cette année avec une autre couverture. Bref, à cette occasion, cette exposition au musée Hergé de Louvain-la-Neuve retrace les aventures de Tintin en Chine. On y découvre comment Hergé a eu l'idée d'emmener son reporter à Houpette dans le pays. Jean-Jacques Herry a visité cette expo.
La Chine de Tintin, elle est née d'une amitié. Lorsqu'en 1934 à Bruxelles, Hergé rencontre Chang Chongzhen, un étudiant chinois aux Beaux-Arts, avec qui il va travailler sur son nouvel album, raconte Marc Van Acter, guide pour le musée Hergé.
Chaque dimanche, Chang se rendait au domicile d'Hergé et lui parlait de l'actualité, des événements, de comment les Chinois vivaient l'invasion japonaise. Chang a même offert un livre sur la technique d'apprentissage du dessin en Asie. Hergé a pu s'imprégner de ce trait et le retranscrire dans ses planches.
Et ainsi s'esquisse peu à peu le Lotus bleu, dont les planches originales en noir et blanc et grand format sont exposées pour la première fois, accompagnées par les photos et les livres qui ont aidé Hergé à dessiner un pays qu'il ne connaissait pas, pour le plus grand bonheur de Bernard.
Le fait de travailler avec Chang, ça lui a permis d'aller plus profond dans un récit plus authentique, plus instruit. Il y a des cases du Lotus bleu qui sont des réelles estampes. Quand j'étais petit, ça m'a vraiment fait rêver, ça m'a vraiment fait voyager.
Un pari réussi à en croire Guo, étudiante chinoise.
Oui, les Chinois dessine vraiment comme ça. C'est une œuvre magnifique.
Comme Tintin qui, sur le papier, finit par retrouver Chang au Tibet. Dans la vraie vie, Hergé renouera avec son ami en 1981 à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, sous l'œil des caméras, 45 ans après la sortie du Lotus bleu. Jean-Jacques Herry, Louvain-la-Neuve, RFI.
RFI Matin, ça continue avec Julien Coquel-Rouen.
Merci Marion Cazanov. Dans un peu plus de 5 minutes maintenant, notre invité Denis Charbit, chercheur franco-israélien et professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel. Mais tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier du football, 20e journée de Ligue 1, les gourmands seront ravis avec ce soir le premier des trois Paris-Brest en moins d'un mois.
Les Bretons reçoivent le PSG à Francis Leblay, deux clubs qui ont appris hier qu'ils seraient aussi adversaires en barrage de Ligue des Champions. Trois confrontations à venir donc en trois semaines donc. Ce samedi aura tout d'une répétition générale et Luis Enrique, malgré ce tirage plutôt favorable, prend cette équipe de Brest très au sérieux.
Brest est une grande équipe, très bien rodée, qui la saison dernière jouait à un niveau exceptionnel. Cette saison, ils sont en train d'améliorer leurs performances et sont dans une bonne dynamique. C'est une équipe qui défend très bien, très complexe, et c'est pour ça qu'elle est là où elle est. Je le répète, la Ligue des Champions est totalement différente. En deux matchs, la moindre erreur peut vous coûter cher, et c'est ce qui sera décisif dans cette compétition. En Ligue 1, le scénario est différent, et ce samedi, nous jouons championnat. Nous voulons continuer à aborder chaque match de la même manière, en essayant de le gagner, et c'est l'objectif du jour.
Brest-PSG, coup d'envoi 16h, temps universel, avant que Monaco n'accueille Auxerre à 18h TU, puis que Lille ne reçoive Saint-Etienne à 20h05, temps universel.
En rugby, les Bleus en démonstration pour leur entrée dans le tournoi Destination.
43-0 face au Pays de Galles, un match quasi parfait des coéquipiers d'Antoine Dupont. 7 essais, une défense infranchissable. Finalement, seule l'exclusion du demi d'ouverture Romain de Tamac dans le dernier quart d'heure pour un coup d'épaule sera venue gâcher la soirée française. Alexandre Roumat, son coéquipier, fait le bilan.
Pour un premier match, c'est très satisfaisant. Après, on a vu que l'équipe galloise nous a mis beaucoup de pression dans les rucks, et notamment aussi sur les ballons hauts, et c'est deux secteurs où je pense qu'on a été mis à par moments en difficulté sur le match. Donc voilà, on est bien conscient que c'est pas une copie parfaite. Je pense qu'elle est très positive, mais face au match qui nous attend la semaine prochaine, je pense que c'est d'autant plus deux secteurs qui seront primordiaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a ce sentiment, je pense, d'insatisfaction, pardon. Et aussi le carton rouge malheureux de Romain qui entache, on va dire, une belle soirée.
Alexandre Roumat avec Babacar Diarra, Romain de Tamac qui sera privé au minimum du match en Angleterre samedi prochain à Twickenham pour la deuxième journée de ce tournoi Destination.
Enfin du judo et le premier grand rendez-vous de l'année ce week-end avec le Paris Grand Slam.
Plusieurs médaillés olympiques à l'affiche, parmi lesquels Shirine Boukli, médaillée de bronze chez les moins de 48 kilos. La Française démarre sa saison ce samedi et ce, en pleine semaine de la campagne de valorisation du sport féminin en France. Et pour la judoka de 26 ans, il est important qu'elle et ses collègues soient médiatisés.
C'est cool de pouvoir mettre en avant la femme sur un sport de combat et montrer à ces jeunes qu'en fait tout est possible. Donc oui, nous on veut être mis en avant, la femme c'est important, il faut montrer qu'on est capable de tout faire. Et même un sport qui a peut-être des tendances vers l'homme parce que en fait c'est un sport de combat, de contact et on a envie de faire mal. On peut être des guerrières et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc oui, avec plaisir. Aujourd'hui, toutes les femmes qui sont présentes sur le tapis inspirent d'autres. J'en ai croisé tellement en fait de jeunes qui me disent « on a commencé le judo grâce à toi, tu nous as donné envie » et ça fait extrêmement plaisir d'être des exemples. C'est pour ça qu'on est un sport avec plein de valeurs et je suis trop fière de représenter le judo avec toutes ces valeurs et d'autant plus la femme et de leur apporter quelque chose en plus qui va peut-être les épanouir dans leur vie finalement.
Shirine Boukli avec Eric Mamrut, la médaillée olympique et triple championne d'Europe qui entre en lice face à l'Espagnole Gemma Maria Gomez Antona.
Merci Antoine Grenier. Un scrutin que l'Union européenne a qualifié de mascarade. Dimanche dernier, Alexandre Loukachenko a été réélu en Biélorussie pour un 7e mandat présidentiel consécutif. Il reste donc au pouvoir 30 ans après y être arrivé. Alors qu'il y a 5 ans, son régime avait semblé vaciller face à la forte contestation des résultats de la précédente élection. Depuis cette mobilisation, Loukachenko s'est livré à une répression sans précédent qui a notamment touché les journalistes. Tous les médias indépendants du pays ont été fermés et plus de 40 journalistes sont derrière les barreaux. Parmi eux, l'ancienne rédactrice en chef du média Tutbay, Marina Zolotova, purge aujourd'hui une peine de 12 ans de prison. Son portrait dans Menace sur l'information, signé Anastasia Becchio.
Avec à sa tête Marina Zolotova, Tutbay était le plus grand média en ligne indépendant du pays. Estampillée extrémiste, elle a été fermée en août 2021. Alexandra Pouchkina y a travaillé. Elle est aujourd'hui membre du comité de direction du journal en ligne Zerkalo, successeur de Tutbay, dont les journalistes sont disséminés dans plusieurs pays européens.
Beaucoup de personnes avaient Tutbay en page d'accueil. Elles débutaient leur journée en lisant notre site, elles puisaient toutes les informations sur Tutbay et vérifiaient l'information grâce à Tutbay. On estimait que tant que ça n'avait pas été publié sur le site, l'information n'existait pas. Tutbay, c'était cette force qui permettait notamment de régler des problèmes dans le pays.
Marina Zolotova, 47 ans, purge sa lourde peine dans la colonie pour femmes de Gomel. Ses collègues ont de ses nouvelles grâce aux lettres qu'elle peut échanger avec sa famille, son mari, ses deux enfants, exilés à Varsovie. Voici ce qu'elle disait de son métier à la Deutsche Welle avant son arrestation.
Nous avons fait notre choix lorsque nous avons décidé de faire du journalisme dans ce pays et de le faire comme nous le faisons, c'est-à-dire en rapportant honnêtement ce qui se passe dans le pays.
Marina Zolotova a été condamnée, tout comme la directrice de Tutbai, Ludmila Chekina, pour incitation à la haine, appel à des actions visant à porter atteinte à la sécurité nationale, mais aussi évasion fiscale, des charges qualifiées d'absurdes par Reporters sans frontières. Olga Loyko était responsable éditoriale de la section politique et économique de Tutbai, placée sur la liste des personnes impliquées dans des activités terroristes. Après avoir passé 10 mois en détention provisoire, elle a ensuite fui le pays. Elle sera jugée par contumace pour les mêmes charges que son ancienne rédactrice en chef.
On savait qu'on était susceptible de se retrouver en prison, mais personne ne pensait qu'il y aurait des peines aussi lourdes. Dans la rédaction, c'était un sujet de plaisanterie, une sorte de psychothérapie sur le ton de l'ironie. On blaguait par exemple avec des interrogations du type « Mais qui va rester avec ton chat ?» On en discutait assez souvent parce qu'il y avait des arrestations. Mais d'un autre côté, Tutbai était quand même un média important, influent, où on s'efforçait de respecter les bonnes pratiques du journalisme. Donc on ne s'attendait pas à de telles condamnations. Et d'ailleurs, personne probablement ne s'y attendait.
S'il a gracié quelques prisonniers politiques l'an dernier, Alexandre Loukachenko a signifié lors d'une récente conférence de presse qu'il n'avait aucunement l'intention d'en faire de même pour les journalistes emprisonnés. Face aux arrestations arbitraires, aux perquisitions, aux fermetures de médias et aux violences exercées contre les journalistes, Reporters sans frontières a déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité.
Menace sur l'information avec Anastasia Becchio. 7h20 à Paris, bientôt 2 semaines après l'entrée en vigueur de l'accord entre Israël et le Hamas. Un 4e échange prévu aujourd'hui. 3 otages israéliens et 183 prisonniers palestiniens doivent être libérés aujourd'hui. Et cette nouvelle journée sera-t-elle l'occasion de nouvelles images, comme on en a vu dans la semaine qui vient de s'écouler, des otages amenés sur une estrade pour saluer la foule avant d'être remis à la Croix-Rouge, certificats et même sacs de cadeaux en main. Jeudi, d'autres otages ont dû pour leur part traverser une foule survoltée pendant de longues minutes escortées par des combattants. Des images dénoncées par Israël qui a demandé des garanties pour les prochaines libérations. Mais que nous disent ces mises en scène et où en est-on aujourd'hui de la guerre des images entre les deux camps? Quelle perspective aussi alors que les négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu doivent reprendre? On fait le tour de la question ce matin avec notre invité. Bonjour Denis Charbit.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, chercheur franco-israélien et professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel, près de Tel Aviv. On voit donc cette volonté du Hamas de mettre en scène et de se mettre en scène lors des libérations. À qui ces images sont-elles adressées, selon vous ?
Je veux dire qu'elles sont adressées à la communauté internationale, elles sont adressées aux Palestiniens et notamment de la bande de Gaza et même à l'autorité palestinienne et puis aussi aux Israéliens. C'est une manière de dire nous n'avons pas perdu. Tous les discours considérant que nous avons été détruits sont vains, puisque nous montrons, c'est une démonstration de force, c'est une capacité. Je dirais que d'une certaine manière, c'est répondre à la définition même du terrorisme. Nous sommes là pour répandre la terreur. Alors surtout, les dernières images que vous avez évoquées, c'est-à-dire quand les deux otages ont fendu la foule dans des conditions qui ont fait que nous avions tous le souffle suspendu. Voilà, c'est une manière de dire nous existons et nous correspondons à l'image que vous avez de nous, là où on aurait pu penser, en termes de guerre d'image, qu'on va au contraire soigner l'image, dire regardez, nous les avons certes détenus, mais nous les avons échangés contre des prisonniers palestiniens dans de bonnes conditions. Non, c'est l'idée, c'est une mise en scène dont on se demande d'ailleurs, mais qui vient-elle convaincre? Parmi même ceux qui soutiennent la cause palestinienne, voire le Hamas, qui est convaincu par de telles images?
Il y a aussi la volonté peut-être d'envoyer une image de victoire. On a vu cette inscription qui a beaucoup choqué, je cite, la victoire du peuple opprimé sur le sionisme nazi, sur des panneaux derrière les otages. C'est la volonté de montrer que le Hamas sort, selon lui, victorieux de ces 15 mois de guerre?
Oui, tout à fait. C'est dire il existe toujours. Mais je dirais que, là pour le coup, dans une guerre asymétrique, le plus faible, s'il tient bon, il apparaît toujours comme objectivement celui qui a gagné. Même si, en termes de rapport de force, les choses n'en sont pas là. Mais c'est l'idée de montrer que, bien sûr, on a été défait sur le plan militaire, mais qu'on reste sur le plan administratif, sur le plan politique. C'est nous les propriétaires. C'est nous qui sommes les maîtres de la bande de Gaza. C'est nous qui allons diriger le flot de réfugiés qui revient. Et ça, effectivement, c'était capital, je dirais même, pour le Hamas. Dans un moment où il est quand même, et c'est ça je pense, c'est pour ça que ça s'adresse aussi aux Palestiniens de Gaza, attention, ayez peur de nous, nous sommes à la fois vos libérateurs, mais aussi ceux qui vous tiennent de très près, et ça effectivement c'est quelque chose qui est assez inquiétant, même pour les Palestiniens, dont on dit d'ailleurs, ceux de Gaza, qu'ils s'expriment, c'est-à-dire qu'en même temps ils détestent Israël, puisque Israël leur a fait la guerre, mais ils détestent pas moins ce régime qui les a conduits ici.
Les lieux où les libérations sont montrées changent à chaque fois. On a vu ces estrades samedi dernier, d'abord dans le vieux Gaza, jeudi ensuite dans le sud à Khan Younes, et la scène de bousculade à Jabalia. Le choix des lieux a aussi son importance pour le Hamas en termes de communication ?
Oui, c'est montré effectivement qu'il est maître partout, que aucun territoire et notamment ces lieux symboliques sont Jabalia, Khan Younes, on dit que c'était à côté de la maison de Yehi Sinwar, le chef, le dirigeant du Hamas, celui qui a mené
l'attaque du 7 octobre.
Mmh. Exactement. Voilà, c'est dire voilà, nous reprenons le contrôle. Voilà, c'est montrer que nous contrôlons comme nous savons contrôler, c'est-à-dire par la force, avec des cagoules, avec les Kalachnikov, etc. Oui. Voilà, ce qui montre bien qu'on est toujours, on est dans une phase de, non pas de réconciliation, non pas de, ça va être la fin des combats sans doute, effectivement, mais pas la fin de la guerre.
Dans ces échanges de libération, on voit l'exact inverse côté israélien, comme un négatif de photo. Israël veut à tout prix éviter de son côté les scènes de liesse autour des prisonniers palestiniens relâchés. Ils sortent de prison dans des bus, les célébrations sont interdites par endroits, notamment à Jérusalem-Est. Pour Israël, la victoire communicationnelle, c'est l'absence d'image ?
Oui, c'est faire surtout illustrer le fait que ce n'est pas un échange entre prisonniers, ce n'est pas un échange d'égal à égal. Mmh. Ce sont des innocents qui sont libérés, là je parle bien sûr des otages israéliens et israéliennes, et ce sont des Palestiniens qui ont décidé de vouer leur combat à la lutte palestinienne, et qui ont, comme nous disons en hébreu, enfin je traduis ici en français, du sang sur les mains, c'est-à-dire qui ont tué des civils, des innocents à Haïfa, à Tel Aviv, à Jérusalem, et que dans ce cas-là, bien sûr que leurs familles se satisfont de leur libération anticipée, ils auront tous purgé une vingtaine d'années de prison environ, mais finalement c'est une rançon, quand on cède à une rançon, puisque c'est quand même cela aussi cette négociation. Mmh. Eh bien, il n'y a pas de quoi pavoiser. Et en tout cas, ce n'est pas Israël qui tolérera l'expression publique de ses satisfactions. Même si j'imagine bien sûr que pour les familles, c'est un grand jour. Mais les conditions, c'est pas un échange entre prisonniers des deux côtés qui ont été retenus au bout de quelques mois et plus d'un an d'ailleurs de combat.
Les négociations sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu doivent reprendre dans les prochains jours. L'une des craintes au moment où il est entré en vigueur, c'était que Benjamin Netanyahou, sous la pression de l'extrême droite notamment, relance la guerre à l'issue des 6 premières semaines de la première phase. Bientôt 2 semaines après le début du cessez-le-feu, les conditions vous paraissent-elles plus favorables aujourd'hui pour que la paix s'installe dans la durée ?
Oui, et pour ça, il faut me parler encore des images, si je puis dire, c'est-à-dire les images qui sont en moins grand nombre, mais de la libération de ces otages. L'image que tous les Israéliens veulent voir, c'est, même si ça relève du privé, c'est le premier baiser que donnent leurs parents à leurs enfants, à leur mari, etc. Après, aujourd'hui, c'est la première fois que des hommes sont libérés. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, parce que c'est un an, si vous voulez, plus d'un an, de tension, on a vécu, et je dirais que la manière dont on couvre cela, et ce sont des c'est 24 heures sur 24, si je puis dire, de direct autour de la libération des oiseaux. On ne parle pratiquement de rien d'autre. Je pense que ça crée également une pression supplémentaire sur Benjamin Netanyahou pour que ce soit non seulement un échange réussi et qui vraisemblablement oui, parvient à se réaliser dans les meilleures conditions, mais c'est surtout la fin de la guerre que l'on réclame. Et ça, je pense que la pression public aujourd'hui, l'émotion collective fait que on ne reviendra pas aussi facilement au combat comme il l'avait peut-être souhaité. Et puis n'oublions pas, un des deux acteurs de l'extrême droite a quitté le gouvernement précisément comme une sorte d'ultimatum, mais vraisemblablement ça donne plus les coups des franges au gouvernement qui ne pourra pas reculer. Et la troisième élément qui est peut-être indispensable, certains disent même c'est l'élément majeur et qui explique qu'on pourra passer à la seconde phase, c'est Donald Trump qui met tout son poids dans la balance, qui a envoyé son délégué pour rencontrer tout le monde hier, les otages libérés ou avant-hier, les otages libérés, les familles, les ministres, même l'opposition, et plus encore, c'est Netanyahou qui est, je dirais pas non seulement invité, mais sollicité très fermement,
presque convoqué à la Maison Blanche
la semaine prochaine.
Merci, exactement. Merci beaucoup Denis Charbit d'avoir répondu à l'invitation des RFI ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur franco-israélien, professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel près de Tel Aviv. Très bonne journée à vous.
Au revoir.
Et bonne journée, à bientôt. Bientôt 6h30 en temps universel et l'info continue sur la Radio du Monde.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Wolf.
Depuis plus de 25 ans, ce MC du genre discret hante les coulisses du rap français. JP Manova est dans BPM La Rencontre.
On chantait Paris magique, frérot. J'ai toujours su qu'elle l'était pas. Ouais, je suis toujours dans la zig, frérot. Mais c'est l'heure de suivre mes pas.
Bonne pulsation du monde, tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.